14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
And the train is coming. Then at the first car.
Le métro arrive et dans le premier wagon, je vois un journal enroulé autour d'un sac plastique. J'ai failli marcher dessus. Il y avait un homme à côté du sac, les yeux fermés. Et puis d'un coup, il a commencé à avoir des convulsions.
The guy was like shaking his body.
Bonjour, 13 morts officiellement retenus, des milliers de blessés, mais sans doute une cinquantaine de meurtres, peut-être 100. À l'origine de cette dérive criminelle, un gourou japonais aveugle qui avait décidé de devenir le maître du monde en prônant la terreur dans tout le pays. Des milliers de disciples vont ainsi se rallier aux préceptes de ce leader maléfique, le chevelu et barbu Shoko Asahara. Pendant 10 ans, cet homme va ainsi étudier le meilleur moyen de créer une apocalypse chimique. Les virus, les bactéries, le poison, seuls ses adeptes seraient appelés à survivre. Un village et le métro de Tokyo seront ainsi noyés dans un nuage de gaz sarin. C'est cette histoire, celle de la secte Aum, vérité suprême, et de son maître à penser que je vous raconte aujourd'hui. Comment Aum a-t-elle pu devenir si puissante sans se faire remarquer? Et pourquoi la plupart de ces crimes sont restés impunis? L'organisation est-elle en train de renaître? Question posée aujourd'hui à nos invités.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la secte Aum au Japon et Shoko Asahara, son fanatique maître à penser. Celui-ci est depuis longtemps dans le collimateur de la police nippone qui ne le voyait pas comme un tueur de masse jusqu'à cette belle matinée du printemps 1995 dans les sous-sols de Tokyo. Ce 20 mars 1995, à 7h48 du matin, un homme en costume gris, similaire à des dizaines d'autres costumes gris, s'engouffre dans une rame du métro de Tokyo, bondée à 7h de pointe. Personne n'a remarqué les deux petits sachets en plastique remplis d'un liquide visqueux qu'il dissimule dans un journal. Juste avant d'arriver à la station qui dessert le centre d'affaires de Chiyoda, l'un des plus importants de la capitale, il laisse glisser au sol les petits sacs. Il les crève avec la pointe spécialement aiguisée d'un parapluie. Le liquide se répand, l'homme sort tout de suite de la rame. Au même moment, sur 4 autres lignes du métro, 4 individus en costume gris et serrant contre eux un journal exécutent le même scénario. Un complice les dépose à une station puis les récupère à une autre. Entre-temps, ils ont crevé les sacs avec leurs parapluies effilés. Le poison en question est un gaz mortel, un gaz de combat, du gaz sarin, mis au point par un ingénieur chimiste et membre fanatisé de la secte Aum. Les porteurs de sacs, parfois déguisés avec des perruques, réussissent plus ou moins leur périlleuse mission. L'un d'eux ne parvient pas à percer l'une des poches qu'il abandonne sur une banquette. Un autre est éclaboussé par le liquide mortel. Il commence à étouffer quand il sort du métro, sauvé par son complice qui lui injecte de l'atropine, un puissant contrepoison et décontractant. Alors que les 10 hommes se fondent dans la nature, il est prévu qu'à 8h20, il retrouve Asahara, le gourou de Aum, pour lui raconter l'opération. Des centaines, puis des milliers de passagers commencent à tousser, à suffoquer, puis à s'écrouler dans les rames et sur les quais. Des personnes qui ressentent de fortes nausées, des douleurs insupportables aux yeux. Dans la panique, 2 employés du métro ont repéré un sac d'où s'écoule un liquide nocif qui imbibe un journal. Ils balancent ce paquet toxique sur la voie. Ils ne survivront pas. Des passagers inconscients sont allongés sur les quais, en proie à des tremblements, à des contractions musculaires. Les médecins ne savent pas quelle est la nature du poison qui frappe les victimes. Un établissement de Tokyo, l'hôpital Saint-Luc, est réquisitionné pour accueillir les blessés. Des milliers de doses d'atropine, un antidote utilisé dans les exploitations agricoles contre les empoisonnements aux pesticides, sont rassemblés. Le bilan définitif est le suivant. 13 morts, 6252 blessés, dont 1124 qui resteront handicapés à vie. Le 28 mars, 8 jours après l'attaque, le chef de la police de Tokyo fait publiquement part des soupçons qui pèsent sur une secte, la secte Aum, et son chef de file Asahara, alors âgé de 40 ans. Les forces de l'ordre s'apprêtaient à perquisitionner une de ses propriétés. 2 jours après cette déclaration, le chef de la police est touché par 3 balles de pistolet à la poitrine. Il restera de longues semaines dans le coma. Un adepte de la secte est le tireur. Le gourou, lui, reste introuvable. 1 mois et demi plus tard, le 5 mai, un gazage massif est évité à la gare de Yokohama. Le 15 mai, Asahara est enfin localisé. Il se cache dans une propriété que possède la secte au pied du mont Fuji, le complexe numéro 6. 2000 militaires et policiers équipés de masques et de combinaisons sont mobilisés. Ils lâchent des dizaines de canaris pour voir si aucun des oiseaux ne succombe à l'approche du bâtiment. Des adeptes se rendent sans résistance. Il faut 4 heures pour débusquer le gourou retranché dans un bunker, protégé par des portes blindées découpées au chalumeau. Azahara les attend, tout sourire dans sa toge de couleur violette. L'air du bunker est pestilentiel. L'homme indique qu'il ne se lavait plus depuis plusieurs semaines. Et voilà donc pour l'arrestation de ce gourou. Ce n'est que le début d'une très très longue enquête et pour le moins saisissante vu le parcours de cet homme. Nous n'en sommes pas là, on va rester sur cet événement hors norme, c'est-à-dire l'attaque du métro de Tokyo. Bonjour Régis Arnaud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste correspondant au Japon pour plusieurs médias. Vous connaissez bien cette histoire qui à l'époque, il faut le dire, au Japon et même dans le monde entier, c'est un cataclysme, cette attaque du métro.
Oui, c'était tout à fait extraordinaire. Alors moi, j'étais arrivé au Japon quelques mois plus tôt, donc je parlais assez mal, enfin pas du tout même japonais, et le mot qu'on entendait partout dans le métro, c'était sarin, 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 même si on comprenait pas le reste des phrases, mais c'était une surprise totale. Le Japon est une société assez sûre, qui a eu des actes de terrorisme au début du XXe siècle, mais qui après est redevenu assez calme, et c'est évidemment une comme vous venez de le décrire, une affaire qui est absolument incroyable.
Alors c'est une affaire totalement incroyable, d'abord parce qu'il y a des morts et il y a des centaines de blessés. Il aurait pu y avoir d'ailleurs beaucoup plus de morts si le produit avait mieux fonctionné, on pourrait dire. Tout de suite, Régis Arnaud, l'enquête, elle est assez rapide, hein, parce que le chef de la police, je l'ai dit, il a des doutes. Il dit, bon, il y a sans doute la secte Aum qui est derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on sait à ce moment-là de cette secte qui paraît puissante et même menaçante?
Alors c'est une secte qui il y a beaucoup de sectes au Japon, hein, il y en a des milliers, donc c'était une secte parmi d'autres qui était surveillée, mais sur laquelle il y avait beaucoup de soupçons parce que plusieurs affaires auparavant, plusieurs meurtres, plusieurs empoisonnements avaient été plus ou moins liés à elle. Mais la police n'était jamais allée au bout des investigations, des rumeurs et des doutes qui se posaient à elle. Donc elle était dans le radar sans vraiment y être.
Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait eu beaucoup de signaux d'alerte, et on va y revenir sur ces signaux d'alerte, mais que là, on peut le dire, les autorités, la police, les militaires, les politiques, ils tombent des nues avec cette histoire. Jamais on supposait qu'il y aurait une attaque d'une telle ampleur de la part d'une secte.
Oui, absolument. Ils sont absolument sidérés. Les pouvoirs de la police au Japon d'investigation sont en fait assez limités, si on peut dire, jusqu'à ce que vous ayez fait quelque chose de très mal. La police vous fiche la paix. Et les sectes sont aussi en général laissées tranquilles.
Considérées comme des églises, on peut le dire, hein, c'est ça. Hein.
Oui, des groupes religieux en général, enfin largement inoffensifs et qui sont un peu comme des associations dans d'autres pays, quoi.
On a en ligne notre deuxième invité, Éric Boza, bonjour.
Bonjour.
Psychologue, clinicien, expert auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux et spécialiste de la manipulation mentale, de l'emprise et des sectes. Votre témoignage nous est précieux aujourd'hui dans l'heure du crime parce qu'il y a ce gourou qui apparaît là, Azahara, il a 40 ans. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on sait de lui? Il fait partie des nombreux, très nombreux gourous que compte le Japon, comme le disait Régis Arnaud.
Moi, je ne suis pas un spécialiste de cette secte, mais j'ai étudié quand même différents mouvements dans une quinzaine de sectes, avec différents types de gourous et des mouvements qui sont identiques. Ouais. Alors, avec des motivations souvent bien différentes, mais j'essaierai de vous dépeindre en quelques minutes les mouvements principaux qu'on va retrouver dans l'ensemble de ces sectes et qu'on va retrouver aussi dans cette secte Aum avec Shoko Azahara.
Oui, alors, juste deux mots, Éric Boza. Oui. Lui, il dit, Azahara, il dit c'est une inspiration bouddhiste, j'ai envie de dire, mais c'est un bouddhisme intégriste ou extrême.
Oui, si vous voulez, au début, le premier mouvement, c'est ce qu'on appelle le mouvement captatif. Le discours captatif, alors c'est un discours qui est chez lui assez religieux. C'est le règne du Messie sur Terre, chasser l'Antéchrist. Alors en effet, il y a du bouddhisme, de l'hindouisme, du New Age. Il s'appuie également à un moment sur les prophéties de Nostradamus.
C'est compliqué.
Ouais, l'immortalité, à la base, il est prof de yoga, quoi. Il fait du yoga. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand même, comme beaucoup de gourous, il va administrer du LSD, des amphétamines à ses disciples. C'est-à-dire qu'il ne va pas arriver à les convaincre aussi comme ça dans ses cours de yoga pour arriver à des expériences transcendantales, transcendées. Ouais. Ah, je crois. Et les gens, en effet, vont mordre dans ce discours captatif et dans cette incarnation du gourou qui est la réincarnation de la déesse Shiva, dit-il.
Oui, donc c'est tout un ensemble. Effectivement, il y a un méli-mélo de connexion qui est un peu difficile à comprendre, mais il se sert sans doute de tout pour capter l'attention de disciples qui vont devenir très très dociles. Régis Arnaud, encore une question. On parle avec Éric Boza là, de ce gourou. Est-ce qu'il est vrai qu'à l'époque, il est déjà connu? Il a fait le tour des plateaux télé, je crois.
Oui, il a une petite réputation parce que c'est un type assez haut en couleur, qui est très très fort aussi pour sa propre communication. Il y a des chansons autour de lui, il y a des dessins animés, des mangas. C'est un personnage qui semble être une sorte de doudingue, quelqu'un d'à la fois inoffensif et un peu une sorte de babacool, un peu plus au perché que les autres, si j'ose dire. Et donc il y a une petite réputation en effet, mais qui est pas du tout associée à une dangerosité quelconque.
Asahara, le gourou, Baba Cool, mais surtout ennemi public numéro 1 au Japon, est sous les verrous et pas prêt d'en sortir. Ces 10 dernières années, il avait bâti en toute impunité un empire puissant au sein duquel les exécutions, meurtres et disparitions en tout genre se sont multipliées. Shoko Asahara, cheveux longs, barbu, est écroué dans la prison de haute sécurité de Kosuge, l'établissement où sera détenu plus de 20 ans plus tard le PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Asahara, quasiment aveugle depuis la naissance, il n'a qu'un dixième à l'œil droit, garde poliment le silence. Le monde entier découvre alors le parcours mystique et effrayant d'un assassin, avant de devenir un gourou maléfique. Asahara avait étudié la médecine chinoise et l'acupuncture. À 23 ans, il se marie à Tomoko, jeune fille de son âge qui assistera impuissante à sa dérive criminelle. Les affaires prospèrent jusqu'à ce qu'il soit poursuivi pour exercice illégal de la médecine. La découverte de l'ésotérisme, la lecture des prophéties apocalyptiques et des textes de Nostradamus le fascinent. Il se met alors dans la peau du guide qui pourra condamner les impurs et sauver ses seuls disciples. En ce début des années 80, la secte Aum n'est officiellement qu'une école de yoga. Asahara, son gourou autoritaire, y impose le jeûne, le dépouillement, l'abandon de tout au profit de son message. L'argent afflue, les disciples se multiplient. En juillet 1987, le gourou d'Aum, visage rond et sourire éclatant, a installé son organisation à Shibuya. Il peut compter sur des hommes et des femmes envoûtés. Asahara est le guide tout-puissant, il est interdit de le contredire. Les adeptes travaillent pour lui 20 heures par jour, sont privés de sommeil et de nourriture, interdits de mariage, alors que Asahara a toute latitude, lui, pour choisir des maîtresses. Après un an d'existence, deux premiers adeptes, moins dociles que les autres, disparaissent du jour au lendemain. Discrètement assassinés sur ordre du maître, leurs cendres dispersées dans la montagne. Aucune plainte n'est déposée. Un an plus tard, dans la nuit du 3 au 4 novembre 1989, à 3h du matin, un commando d'Aum entre dans la maison de l'avocat Sakamoto Tsutsumi. Celui-ci défend des anciens adeptes qui dénoncent les abus de la secte. L'avocat est frappé à la tête à coups de marteau. Son épouse, elle aussi, est frappée. Le fils du couple, 14 mois seulement, reçoit une injection fatale de chlorure de potassium. La maison est nettoyée, les draps emportés, la famille achevée avec une substance chimique dans une friche industrielle, les dents cassées pour éviter toute identification. Il faudra un an pour que la police retrouve les restes de la famille de l'avocat. Début des années 90, Aum, protégé par son statut d'église, compte plus de 10 000 adeptes. Tous obéissants et voués corps et âme à leur gourou. La secte a essaimé en Russie où elle rassemble là-bas 30 000 sympathisants. Aum multiplie les investissements, immeubles, terrains, entrepôts. Le maître à penser, protégé par une garde personnelle et une poignée de disciples fanatisés, continue à faire régner la terreur. Les règlements de compte et les assassinats sont entourés de la plus grande discrétion mais se poursuivent de plus belle. Le pharmacien de la secte qui avait autorisé une adepte à se faire soigner dans un hôpital est abattu. C'est la propre fille de la patiente malade qui l'a tuée sur ordre du tout-puissant Azahara. Deux autres adeptes capturent, elles, leur propre père, un riche restaurateur, pour qu'il lègue sa fortune à Aoum. L'homme va passer 5 mois séquestré dans une cave, soumis à un lavage de cerveau, contraint d'écouter jour et nuit les prêches du gourou. Il fera semblant d'être fanatisé et parviendra à se rendre dans un poste de police pour déposer plainte. Mais seules ces deux filles seront condamnées. L'avocat de la secte, très influent, ayant réussi à présenter cette affaire comme un simple règlement de compte familial. Une secte qui fait donc régner la terreur et qui a, semble-t-il, ses entrées partout. Régis Arnaud, journaliste correspondant au Japon pour plusieurs médias, on vous retrouve dans cette heure du crime. Je le disais, il y a beaucoup d'argent qui circule dans la secte Aoum. Ils sont très puissants, très implantés au Japon.
Oui, ils avaient réussi à collecter, ils étaient extraordinairement efficaces à collecter beaucoup d'argent. Ils étaient très implantés. Ce qui frappait beaucoup les gens à l'époque, c'est notamment leur manière de séduire des enfants de l'élite japonaise, qui étaient dans de très bonnes universités, qui avaient fait les meilleures écoles du monde, qui étaient a priori bien sous tout rapport et qui pourtant étaient totalement dévoués corps et âme à eux et qui leur donnaient non seulement leurs biens, mais ceux de leurs proches et se mettaient à faire chanter leurs parents, leur petite amie, etc. Donc c'était absolument extraordinaire.
Éric Boza, psychologue clinicien et spécialiste des sectes, de la manipulation mentale, et également notre invité dans l'heure du crime. L'argent, c'est évidemment le nerf de la guerre pour les sectes, je le suppose en tout cas. Comment expliquer ces disciples, le mécanisme qui fait que des enfants, des femmes, des hommes abandonnent tout et leurs biens juste pour faire plaisir à un gourou?
Alors moi je vais vous décrire rapidement 5 mouvements pour répondre à votre question. D'abord, on est soumis à un discours captatif. Capter quelque chose, on est fasciné. La victime est souvent vulnérable, physiquement ou, si vous voulez, psychiquement. Mmh. Moi, je le vois dans des gourous, je dirais, individuels, inter-individuels, entre un homme et une femme. Mmh. Et donc, la victime est isolée. Le deuxième mouvement, c'est l'incarnation. On est dans le magique, le surnaturel, le miraculeux, le don. Et c'est vrai que l'incarnation surnaturelle, je dirais, fascine. Avec toutes les surenchères financières, sexuelles. Le troisième mouvement, c'est la mission. Mais le gourou, il a une mission, qui est très souvent délirante, paranoïaque, dévoyée au niveau mystique. Vraiment, il est réincarné, il est porteur d'un don. Mmh. Et puis, le quatrième mouvement, c'est le pouvoir. Le pouvoir, le triple profit. Profit, pouvoir, argent, sexe. Et quelquefois, on a les trois. Quelquefois, par exemple, comme dans la secte Moon, on n'aura que le pouvoir, le profit du pouvoir et le profit financier. Bien entendu, si on regarde la secte de Guyana, Jim Jones, on aura les trois. Yeah. On aura en effet les dérives, les surenchères sexuelles, le pouvoir. Mais on n'a pas toujours les mêmes, quelquefois les trois. Et le dernier mouvement, c'est la destruction individuelle ou de masse qu'on va avoir, et là on l'aura par exemple dans la secte de Guyana. Donc ces 5 mouvements, on va les retrouver, et si on reprend la secte Aoum, on va retrouver ces 5 mouvements.
Exactement, oui.
Particuliers.
Oui, voilà, c'est frappant et très clair ce que vous dites, parce que là effectivement on retrouve effectivement ces 5 mouvements, même si je pense que le sexe n'est pas la première motivation du gourou, mais l'argent, la puissance, la destruction, tout ça, on le retrouve parfaitement. Régis Arnaud, vous qui êtes au Japon, et il y a une enquête qui va s'ouvrir, et on va en parler un peu plus tard dans l'heure du crime, et notamment cet engouement du gourou pour cette obsession chimique, mais ça on va en parler dans un prochain chapitre. Je voulais vous demander, il a des entrées haut placées, le gourou de cette secte, parce que là on a l'impression que les enquêteurs militaires, policiers, sont passés totalement au travers de sa dérive.
Ce qui est très étrange, et ce qui est encore 20 ans après, enfin 25 ans après, est étonnant, c'est effectivement le peu de lumière qu'on sait sur l'ensemble de l'affaire. Il y a encore de très grandes zones d'ombre. On sait qu'il avait des membres qui faisaient partie de l'armée, enfin des forces d'autodéfense japonaises. On sait qu'il était très introduit donc chez les fils de l'élite. Et il y a beaucoup de zones d'ombre. Là, comment il s'est procuré du sarin, par exemple, etc. Mmh. C'est des choses qui ont été volontairement ou pas laissées en fait hors du débat public dans cette affaire.
Qui plus est, Régis Arnaud, c'est un monsieur, ce gourou, si je puis dire, qui se sert en Russie. Il va importer beaucoup de matériel de Russie, etc. Il a beaucoup de contacts là-bas. Ça aussi, ça passe sous les radars, et notamment ceux des services secrets japonais, ce qui est étonnant.
Et Exactement, ça a été, c'est une zone qui reste encore d'ombre aujourd'hui. Il avait un lien très fort avec la Russie, c'était son principal bureau, si j'ose dire, à l'étranger, c'était en Russie. Il avait 30 000 adeptes là-bas. On sait qu'il a essayé d'importer des fusils, et encore une fois, on pense souvent que le gaz sarin vient en partie de la Russie.
Oui, c'est ça, donc et tout ça est passé, encore une fois, ce qui est très troublant dans cette histoire, hein, c'est que il y a aussi un petit point troublant que j'avais relevé dans le dossier, c'est que avant qu'il ne frappe dans le métro, il a été prévenu par des militaires, des sources militaires, qu'il y aurait une perquisition chez lui. Et c'est ce qui l'a déclenché un petit peu son action.
Oui, absolument. Il avait des complicités parmi les forces d'autodéfense japonaises qui l'ont averti, qui même ont fait une sorte de fausse attaque du siège Home pour le faire passer pour une victime et empêcher la police qui, par ailleurs, quand même, est tentée un peu d'en savoir un peu plus sur cette secte. Donc, il avait effectivement des relations très, très haut placées.
L'enquête sur les activités de Shoko Asahara va durer des mois et le procès qui s'annonce, quelques années. L'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo révèle que la secte cachait en fait l'un des laboratoires les plus sophistiqués qui soit, destiné à semer la mort chimique. 5 ans avant la tragédie du métro de Tokyo, Asahara achète une grande propriété près de Tokyo. Il y installe une espèce de laboratoire, une fabrique de poisons mortels animée par des adeptes diplômés de chimie et de biologie. Ces experts travaillent sur une toxine botulique. Il est alors prévu de pulvériser ce botulinum mortel aux abords du Parlement japonais, près d'une base américaine de Yokohama, ainsi que dans l'enceinte de l'aéroport international de Narita. 3 camionnettes agricoles sont utilisées, mais le nuage, trop faible, ne parvient pas à tuer qui que ce soit, juste suffisant pour provoquer de brèves nausées. Asahara poursuit sa quête du poison ultime. Il envoie ainsi certains de ses scientifiques en Amérique du Sud et en Afrique pour importer des virus. Sur ce dernier continent, une équipe est envoyée dans le cadre d'une mission humanitaire. Officiellement, elle s'occupe des malades du virus Ebola. En réalité, elle effectue des transfusions sanguines. Le virus Ebola sera ainsi transporté jusqu'au Japon, mais il ne pourra pas être exploité. Le gourou Daoum va dans le même temps acquérir une vaste exploitation en Australie pour y conduire les tests de gaz sarin sur des moutons. Des dizaines de cadavres d'animaux et des cuves de sarin ne seront découverts que des années plus tard par les autorités locales. En 1992, le gourou Daoum, bien décidé à organiser sa propre apocalypse, a même pensé à un arsenal plus conventionnel. Des adeptes russes l'aident à installer au Japon une discrète fabrique de fusils Kalachnikov. Tout comme les laboratoires de chimie, la police semble tout ignorer de cette activité. Une chaîne de production est installée, mais les pièces reçues pour fabriquer les armes sont presque toutes défectueuses. Asahara va toutefois continuer à importer des armes et du matériel militaire depuis la Russie. 8 jours après son arrestation dans le bunker du mont Fuji, la police découvrira un hélicoptère russe Mi-17 chargé de 1000 litres de gaz sarin et 2 petits avions téléguidés destinés eux aussi à larguer des cartouches de ce poison mortel. Régis Arnaud, c'est un panorama qui fait totalement froid dans le dos. Vous êtes journaliste correspondant au Japon pour plusieurs médias. On peut dire que Asahara, qui est vraiment le maître d'œuvre de cette organisation, il n'a rien laissé au hasard. Il est fasciné par cette chimie, ces expériences biologiques.
Oui, il est d'une sophistication assez inouïe. Il s'est entouré de gens effectivement qui savent ce qu'ils veulent. Il sait faire des produits extraordinairement nocifs. Il sait comment les manipuler. Il a cherché il a expérimenté de façon quand même extraordinairement ambitieuse en Australie et ailleurs sur un cheptel de moutons. Et c'est quelqu'un de tout à fait, c'est vraiment un chimiste absolument redoutable et très appliqué.
Et il a pour cela une équipe. Vous disiez tout à l'heure qu'il recrutait parmi les gens de la bonne société, les érudits, les intellectuels même. Il a pour cela des experts, des techniciens de la chimie qui peut utiliser.
Oui, oui, il a autour de lui des gens extraordinairement sophistiqués et puis qui travaillent sur le long terme. L'opération elle-même qui a dans le métro est quand même d'un machiavélisme et d'une encore une fois sophistication très aboutie. Et il a tenté d'autres opérations très sophistiquées qui auraient pu être bien plus meurtrières un peu plus tard.
Et alors, vous l'avez dit, c'est un vrai mystère. On ne sait pas s'il avait des complicités ou si les forces de l'ordre ou l'autorité au Japon fermait les yeux sur ses activités. Mais il faut le redire, là, à nouveau, une telle organisation qui passe vraiment inaperçue. Vraiment, Régis Arnaud, on le dit, on a du mal à y croire. Et je pense qu'il y a plein de journalistes japonais qui ont enquêté là-dessus. Il y a même des je suppose, des juges qui ont dû essayer d'en savoir plus.
Alors, la police a sans doute beaucoup enquêté. Les journalistes ont aussi enquêté, mais d'abord, la police est en fait assez limitée dans ses moyens d'investigation au Japon, et on est souvent surpris par leur naïveté ou leur manque justement de persistance, alors qu'il y a des indices troublants et énormes devant eux. Encore une fois, c'est un pays très tranquille, donc il y a quand même l'investigation, si vous voulez, c'est pas leur fort, c'est plus le contrôle social permanent,
la sécurité.
C'est pas les experts non plus.
C'est pas les experts, mais là, en l'occurrence, on peut dire qu'ils ont été aveugles sur le gourou aveugle, c'est le moins qu'on puisse dire. Éric Boza, comment, en quelques mots, autant d'adeptes ont-ils pu se rendre complices de cette entreprise criminelle? Parce que persuader une personne, deux personnes, voire 10 personnes, c'est peut-être faisable. En persuader des milliers, et même à distance, en Russie, c'est très compliqué.
Je crois que dès lors que le discours captatif vous a capté, c'est mort. L'incarnation vous a capté également, et là vous rentrez dans la mission du gourou. Et là, cette mission, moi, ce qui me fait peur un peu dans cette secte, c'est la doctrine du POA, c'est-à-dire la guerre juste, que l'on va retrouver aussi. Moi, je travaille beaucoup le terrorisme islamique, intégriste, avec des attentats. La doctrine du POA, c'est cette guerre juste, provoquer l'Armageddon, l'apocalypse, accélérer la fin du monde, renverser le gouvernement japonais, tuer le plus de monde possible. Et les adeptes survivront. C'est toujours ça, les adeptes vont survivre. Car Marshall Applewhite dit à ses disciples qui vont rejoindre le vaisseau du Christ à côté de la comète de Halley, eh bien, ils se suicident tous pour aller rejoindre le vaisseau du Christ à côté de la comète Halley-Bopp. Je crois qu'on est vraiment dans cette dimension. On la retrouve exactement de façon identique chez Jim Jones. Et c'était Jim Jones quand il fonde le temple, c'est en 64.
Guyana.
64, à Guyana, avec la massacre. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que M. Arnaud disait en effet qu'il y avait des complicités. La secte de Guyana, on ne lui a jamais rien fait. C'est une secte qui a fonctionné.
Et exactement. Et c'est comme dans ce cas-là, où effectivement, il y a eu une impunité totale sur cette secte pendant beaucoup d'années. Le procès proprement dit du gourou et de ses adeptes va être l'occasion de démonter tous les mécanismes de l'organisation. Un procès-enquête qui va en fait durer pas moins de 8 ans. Ce 24 avril 1996, Shoko Asahara comparaît devant la cour criminelle de Tokyo. Barbu, cheveux noués en chignon par un ruban de soie, il garde les yeux clos et la tête haute. Il ne souhaite pas s'exprimer. Les procureurs du procès du siècle, comme l'écrivent les journaux, décrivent un homme qui justifie ses crimes de la façon suivante. Il a offert la chance aux victimes de se réincarner dans une vie meilleure. Un leader qui exigeait qu'on le considère comme un dieu vivant et qui se faisait appeler le saint pape. 17 chefs d'accusation sont énumérés, 27 meurtres de fidèles, actions violentes, extorsion de fonds. L'accusation annonce que plus de 12 000 preuves seront présentées lors des débats. Il apparaît que 9 mois avant l'attaque du métro, Asahara avait déjà lancé un commando chimique sur la petite ville de Matsumoto, près de Nagano, une commune qui lui était hostile. Le 24 juin 1994, du gaz sarin était diffusé dans les climatiseurs des habitations, une odeur âcre. 8 morts et plus de 500 blessés, des centaines d'animaux domestiques tués. La police soupçonnait Aoum, mais ne disposait d'aucune preuve. Pendant presque 8 ans, les experts, les policiers, les témoins, les familles de victimes, les avocats vont s'affronter pour déterminer les responsabilités de Shoko Asahara et de plusieurs responsables de la secte, parmi lesquels tous les terroristes du métro et l'ingénieur chimique ayant concocté le gaz sarin. Les avocats du guide suprême vont plaider la folie lors de ses apparitions devant la cour criminelle. Azahara va ainsi être de plus en plus déroutant, passant son temps à prier et à répondre aux juges par des psaumes bouddhistes. Totalement muet, au point d'avoir sans doute perdu la parole ou la raison, une parodie. De retour à la prison de Kosuge, l'accusé redevenait en effet subitement volubile, prêt à plaisanter avec les gardiens et affichant une belle joie de vivre. Le 27 février 2004, Shoko Azahara, tout comme la plupart de ses complices, est condamné à mort, peine qu'il appartiendra ou non à l'autorité judiciaire d'exécuter. Régis Arnaud, journaliste correspondant au Japon pour plusieurs médias et en direct dans l'heure du crime. Que révèle ce procès du siècle? Il va durer 8 ans, ce procès, donc c'est un procès fleuve. Quels en sont, si je puis dire, les temps forts?
C'est difficile parce qu'en fait, Shoko Asahara, pendant tout le procès, ne dira pratiquement rien ou des choses totalement incohérentes. Mmh. Donc ça sera une série de pièces qui l'accableront lui et ses plus proches collaborateurs. Et en face, la défense qui a une stratégie un peu erratique, c'est-à-dire qu'il dit soit qu'il ne savait pas, ce qui semble absolument impossible à croire, soit qu'il était fou et donc il était irresponsable et donc il devait échapper à la mort. Mais ça devient une sorte de routine et pendant 8 ans, il y aura peu de temps fort justement. Ça sera un procès étalé comme ça sur 8 ans avec les procès japonais. Souvent, ils sont pas du tout ramassés. Ils se passent comme le procès autour de Carlos Ghosn par exemple. Ça se passe sur un an ou deux. Mm. Donc il n'y a pas vraiment, si vous voulez, de moments dramatiques comme on peut les voir dans les moments français.
Oui, c'est le déroulement de l'enquête finalement au long cours que traitent les juges. Éric Boza, psychologue clinicien et spécialiste des sectes. Les complices sont évidemment là, à la barre de ce cours criminel, mais ce sont des complices de haut rang, des intellectuels, des techniciens, des scientifiques de très haut niveau. Vous parliez tout à l'heure de personnes faibles qui pouvaient être séduites par ce genre de discours. Là, c'est tout sauf des personnes faibles, tous ces hommes et ces femmes.
Oui, on trouve différents profils. En effet, je crois que là, il y a un profil qui va amener au désir de puissance et de surpuissance. Ce qui va se passer pour la secte Oum, mais la grosse difficulté pour Shoko Asahara, c'est qu'il va survivre à cela. La secte, quand elle est mise en faillite en 96, il est toujours là. Le gourou n'aime pas. Si je vous cite Jim Jones, c'est David Koresh. David Koresh va mettre le feu à, bien entendu, au ranch dans lequel il est. À Waco, tout à fait, en 94. Et Jim Jones va, lui, empoisonner 908 disciples, dont lui. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est insupportable pour eux, dans cette paranoïa, dans cette dérive paranoïaque, de pouvoir survivre à quelque chose qui les laisserait, je dirais, laminer. Donc là, lui, heureusement qu'il n'y a pas eu, je dirais, malgré tout, des milliers de morts, mais il aurait pu y en avoir dans les mois à venir. Il a été, il a été stoppé à temps. Ce qui est problématique, quand j'entends en effet les récits de M. Arnaud, qui connaît bien mieux que moi la secte, c'est qu'en effet, il n'y a rien qui est fait avant. Et exactement comme en Guyana, si Leo Ryan, le membre du Congrès américain, n'est pas assassiné.
N'avait pas été tué, évidemment.
N'avait pas été tué le 17 novembre, il n'y a pas un suicide de masse le 18.
Exactement. Le gourou aveugle ne va pas échapper à la pendaison, mais avant cela, il va laisser un héritage empoisonné, au propre comme au figuré. Un héritage qui va lui survivre. Le vendredi 6 juillet 2018, le gourou aveugle de la secte Aum, Shoko Asahara, de son vrai nom Shizuo Matsumoto, et 7 des 13 condamnés à mort du procès du siècle sont pendus dans l'enceinte de la prison de Kosuge. Comme le veut l'usage, les condamnés n'ont été prévenus qu'au tout dernier moment de leur exécution. Peu après le début des années 2000, un admirateur de Asahara, Joyu Fuimiro, avait repris les rênes de la secte Aum déclarée illégale. Le nouveau mouvement, baptisé Aleph, a officiellement renoncé à la violence, mais ne va jamais cesser de fédérer de nouveaux adeptes. Autour de 2000 environ aujourd'hui, ses responsables vont s'évertuer à répéter qu'ils n'ont aucun lien avec le gourou condamné à mort, sans vraiment convaincre. Peu après l'exécution d'Asahara, un membre d'Aleph foncera avec sa voiture dans un groupe de piétons blessant 8 personnes. Les cendres du maître de la secte Aum sont toujours entreposées dans une pièce secrète de la prison de Tokyo. Son épouse souhaite qu'elle soit dispersée en mer, mais une des filles de Shoko Asahara, elle-même adepte du nouveau mouvement Aleph, s'y oppose. elle aimerait que les cendres de son père soient entreposées dans un temple érigé en sa mémoire, celle d'un dieu vivant. Éric Boza, on vous retrouve dans cette heure du crime, psychologue, clinicien, spécialiste des sectes. Un dieu vivant, c'est comme cela que figure encore aujourd'hui à Zahara pour certains disciples. C'est incroyable qu'après tous ces massacres, ces persécutions, ces opérations de chantage, la secte Aoum, même si elle n'existe plus sous ce nom-là, elle attire toujours des adeptes.
Je crois que c'est le problème de, justement, de cette incarnation qui demeure. L'incarnation demeure, la mission demeure et survit. Tout à l'heure, je réfléchissais à Charles Manson. Mmh. Charles Manson, avec ce racisme anti-noir aux États-Unis, il y a encore des adeptes de Charles Manson et pourtant on était en 67. Mmh. En fait, à part la secte de Guyana qui est vraiment tombée, mais regardez, si vous prenez l'ordre du Temple solaire, on peut encore trouver, si on prend le révérend Moon, on a encore des éléments. Toutes ces personnes qui ont incarné à un moment une mission et qui ont entraîné des milliers d'adeptes demeurent et perdurent dans une forme d'inconscient et d'imagerie collective, ce qui peut être dangereux si un jour un illuminé reprend le flambeau. De certains, de ces personnes-là. Parce qu'on a quand même, pour certains, des trous. Quand on voit David Koresh et les Davidiens, on a quand même quelqu'un. Ça m'a fait toujours un peu sourire de savoir comment les amis de David Koresh l'appelaient. Ils l'appelaient Mystère Retardo.
Ah oui.
Pour dire le niveau de David Koresh. Mais oui. À côté de ça, il y a quand même 82 morts.
Oui, oui, tout à fait. Et là, on a moins de morts. Enfin, quoi que le chiffre exact, on ne le connaîtra sans doute jamais. Régis Arnaud, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la secte Aoum? J'ai dit qu'il y avait ces successeurs, finalement. Ils sont puissants ou pas?
Bon, ils sont pas puissants, ils sont pas très nombreux, comme vous le dites, c'est 2000 personnes. Oui. En fait, le mouvement
déjà pas mal, déjà pas mal quand même, hein, 2000 personnes.
C'est, oui, tout à fait. Et l'année dernière, ils en ont encore recruté une soixantaine de plus à Alep. L'organisation, alors elle s'est scindée en deux ou trois groupes différents, avec Alep qui reste la principale, mais il reste donc une secte de taille très moyenne qui est très étroitement surveillée par la police. Enfin, en tout cas, il faut l'espérer.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser, parce que après ces ratages, on peut les appeler comme ça, et le fait qu'on n'ait pas vu du tout l'émergence de la dangerosité de la secte Aoum, aujourd'hui, ces mouvements, ils sont sous contrôle, si je puis dire.
Oui, ces mouvements sont très surveillés. Enfin, ils demeurent sur une liste particulière de sectes qui font l'objet d'une surveillance accrue, mais ils demeurent autorisés, alors qu'ils sont interdits dans l'Union européenne, ils sont interdits aux États-Unis comme groupe terroriste. Mais au Japon, ils survivent et même ils continuent de recruter des membres, même par quelques dizaines par an.
Est-ce que le Japon a tiré un trait sur cette histoire? Je ne parle pas de la police et des autorités, mais la population, le public, c'est toujours une histoire qui reste comme un cauchemar, quelque chose de puissant au Japon?
Bah, les exécutions sont assez récentes, en fait. Elles ont eu lieu en 2018, et si on peut dire d'un coup, hein, en deux vagues de 7 et 6 pendaisons. Donc c'était évidemment très frappant, mais oui, on peut dire largement qu'elles ont tiré un trait. Enfin, ça n'est pas commémoré ou c'est pas discuté comme ça pourrait l'être dans un autre pays. Oui.
Et la personnalité du gourou Azahara, ça reste quelque chose un petit peu de fantasmatique. Je sais qu'il y a eu des t-shirts, il y a plein de produits dérivés, comme on dit, qui ont été créés à son effigie.
Oui, ça reste un personnage tout à fait hors norme, enfin tant physiquement qu'intellectuellement, que par l'ampleur des crimes qu'on lui reproche, et par sa personnalité, qui demeure une énigme, encore une fois, parce qu'il reste encore des zones d'ombre qu'on ne lèvera sans doute jamais au Japon.
Merci beaucoup, Régis Arnaud. Je précise que vous êtes co-auteur avec Yann Rousseau de cet excellent livre « Le fugitif, les secrets de Carlos Ghosn » chez Stock. Vous êtes journaliste au Japon. Merci à Éric Boza également d'avoir été l'un des invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.